Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de Jésus qui prie pour les siens et aussi de Judas. Et la lecture de l'Évangile du jour se situe dans l'Évangile de Jean au chapitre 17, les versets 1 à 19. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. » J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et j'ai été glorifié en eux.
Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde, tandis que moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais à toi, et je dis ces paroles dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde, et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité.
J'aimerais que nous ouvrions ensemble notre réflexion par une interrogation et même peut-être par deux interrogations. En effet, il me semble que nous nous enfonçons facilement dans des habitudes et même parfois dans de mauvaises habitudes. C'est du moins la réflexion que je me faisais en entendant un jour un de mes fils au retour de l'école biblique qui était rentré mécontent, insatisfait, parce que ses moniteurs ne semblaient pas d'accord sur l'interprétation d'un texte biblique. Comme si la Bible, recueil de témoignages humains, inspirés par Dieu, n'était qu'un ensemble de recettes servies toutes faites à un troupeau passif. Et c'est vrai que nous ouvrons la Bible d'abord et avant tout pour chercher des réponses, rarement pour chercher des questions, des interrogations, des interprétations, des doutes.
En effet, le texte de ce jour dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, et en particulier le verset 12, nous place devant une interrogation. « Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, de sorte que l'Écriture soit accomplie. »
Il est de bon ton aujourd'hui, surtout chez nous les protestants, d'insister sur la libération que Dieu nous donne par grâce seule. Mais qu'en est-il pour Judas ? Judas qui livre Jésus. Judas qui, selon les évangélistes Matthieu et Luc, doit. Jésus doit être livré. Sur le chemin de Jérusalem, Jésus répète, redit, « Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré. » Jésus dit qu'il est le bon berger et par trois fois il précise que le bon berger laisse sa vie pour ses brebis.
Tous les évangiles mettent en évidence le fait que Jésus ne s'oppose pas à son arrestation. Les évangiles, selon Matthieu et selon Luc, critiqueront même celui qui veut l'empêcher. Et Judas dans tout cela. Il fallait que Judas trahisse Jésus pour que l'Écriture soit accomplie. Beaucoup, aujourd'hui, l'acceptent. Et même s'il y a quelques années, une littérature abondante se penchait sur cette question, aujourd'hui nous l'avons un peu oubliée, et c'est dommage.
Il fallait que Judas trahisse. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'homme et pour sa liberté de choix? La Bible nous pose là une question. Elle nous fait réagir. En tout cas, elle bouscule l'idée classique de Dieu et de sa relation à l'homme. Ce texte est une question, une authentique et fondamentale question.
Tout cela pour dire en fait que nous avons le droit et même le devoir de poser des questions à notre Père. Souvenons-nous de la célèbre phrase de Vinet. La vérité sans la recherche de la vérité n'est que la moitié de la vérité. Alors, recherchons la vérité, la compréhension. Cela est sain et indispensable. Ce n'est ni anti-biblique, ni anti-évangélique, bien au contraire.
Mais il nous reste à intégrer l'interrogation. Nous vivons dans une société qui veut tout savoir, sur tout, tout de suite, qui accepte passivement les recettes servies sur un plateau, mais non les doutes et les interprétations déstabilisantes, tant elle est impressionnable et en fait fragile et peu formée à se poser des questions.
À contre-courant, contre vents et marées, il nous faut nous insurger contre le désir de la simplification outrancière dont certains vivent et abusent, même des églises. Il nous faut accepter de ne pas tout savoir tout de suite, de garder des questions et nous souvenir que la foi n'est pas un savoir. Thank you. Nous sommes sur Radio Grand Ciel et dans l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, et écouterons des extraits d'œuvres de Jean-Sébastien Bach à l'instant du clavecin bien tempéré durant cette émission.
Continuons encore quelques instants avec Judas, et plus exactement avec la tradition véhiculée sur Judas. La tradition ecclésiale a fait de Judas le traître par excellence. On le montre dans les tableaux comme un disciple plus petit que les autres, ou sans auréole, ou encore en train de voler du pain à la Seine, avec des cheveux rouges, avec le sac d'argent à la main. Bref, Judas le traître. Personne aujourd'hui n'oserait appeler son enfant Judas.
On est loin d'une autre tradition avec Irénée, un père de l'Église, un penseur du IIe siècle, qui relate l'existence d'un évangile selon Judas, connaissant seul parmi les disciples la vérité qui accomplit le mystère de la trahison. L'Église, les Églises ont diabolisé Judas. Loin de moi l'idée de le disculper. Je pense qu'il avait en fait, comme tout homme, sa liberté de décision, et que Jésus, Fils de Dieu, lit dans les cœurs comme il l'a montré en d'autres circonstances, comme la rencontre avec la Samaritaine, par exemple.
Dieu est plus grand que notre cœur, ses pensées ne sont pas nos pensées et ses chemins ne sont pas nos chemins, nous dit le prophète Ésaïe. Mais la folie de Dieu est plus sage que notre intelligence. Ceci dit, pourquoi nous, les humains, avons-nous diabolisé ainsi Judas? Si on enlève le Judas traître, coupable, quel autre coupable allons-nous trouver? Nous avons projeté nos désirs de trouver un coupable sur Judas. Nous avons cherché et trouvé un bouc émissaire. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas ou ne nous plaît pas, c'est toujours l'autre le coupable.
Rien ne valait le bouc émissaire dont se servaient les nomades. Ce bouc qui était chargé de tous les péchés et que l'on envoyait dans le désert pour en quelque sorte purifier, assainir la tribu. En tout cas, chercher un coupable, c'est se tromper lourdement. Jésus n'est pas mort à cause de quelqu'un en particulier, mais à cause de tous, à cause des hommes et pour les hommes. Pour l'humanité, pécheresse et condamnée, pécheresse et pardonnée.
Nous quittons maintenant le domaine de l'interrogation pour celui ô combien plus rassurant et dans ce texte vraiment extraordinaire de l'affirmation, la finalité de la mort de Jésus. Nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean au chapitre 17, dans les versets 4 et 5, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fin du monde. » Jésus, Dieu fait homme, le temps d'une vie, et quelle vie ! Jésus qui est la révélation de Dieu.
Il est indispensable pour l'homme d'avoir une révélation. Une révélation, c'est-à-dire un intermédiaire, un truchement entre Dieu et les hommes. La révélation révèle Dieu. Il est certain que Dieu se révèle de manière universelle dans l'humanité, en toute culture, religion, époque de l'histoire. Jamais, dit Tillich, théologien de ce siècle, jamais Dieu ne laisse le monde sans sauveur, sans puissance de guérison. En ce sens, toutes les religions qui concourent au salut, toutes les révélations sont bonnes. Le salut est une transformation de notre existence marquée par l'aliénation, les conflits, asservissant l'homme à l'autodestruction. Toutes les révélations seraient bonnes, mais, et c'est là qu'intervient notre texte, Jésus, la révélation, accepte de mourir. Jésus meurt pour que sa personne concrète, historique, disparaisse, et que soit vue la puissance de Dieu, le Rédempteur. Jésus, qui est le porteur de la bonne nouvelle, ne nous demande pas de l'idolâtrer. Jésus se déchire lui-même, se brise, pour donner sa pleine lumière à son Père. Il est la révélation qui se crucifie avant de retourner à la droite du Père.
Jésus, descendu vers nous à Noël, retourne auprès de Dieu à l'Ascension et déclare, dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. » Ainsi, nous voyons que l'homme lui-même, par Jésus-Christ, est élevé vers Dieu. L'homme est appelé à sortir de l'aliénation, des conflits, des servitudes, et participe activement au salut. Il n'y a pas de guérison sans volonté de guérir, il n'y a pas non plus de salut sans la volonté de l'homme.
Sachons bien que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, n'essaie pas d'écraser l'homme. Bien au contraire, Dieu nous confie le monde. Dieu, en Jésus-Christ, par le retour du Christ auprès de lui, nous laisse libres. Il renforce, redynamise, renouvelle l'homme. Il annonce un horizon divin. Il n'impose pas, il nous laisse libres de le choisir ou pas. Il propose une parole venue dire à l'homme qu'il a une valeur. Une valeur non pas mercantile, financière, productive, mais une valeur spirituelle, qualitative, qui lui permet de se transformer, de transformer le néant en vie, le désespoir en espoir, le renoncement en initiative, la culpabilité en joie. La vie éclate dans l'infini du royaume.
Je poursuis par un point, non plus d'interrogation ni d'affirmation, mais un point de suspension, avec le verset 18 du chapitre 17 de l'évangile de Jean. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. » Jésus nous envoie, nous chrétiens, nous Église. Les chrétiens, les Églises ont des défis à relever. Si nous regardons l'histoire, nous découvrons que souvent les églises n'ont pas réagi aux défis à relever, aux situations inacceptables, aux injustices, aux guerres, aux tortures.
C'est à nous, c'est à chacun d'entre nous, c'est donc aussi à l'Église de passer tous les jours par la croix, par la seule autorité qui la guide et la conduit, celle du Christ. Le chrétien vit avec des points de suspension sa vie intérieure. Quelqu'un auprès de toi se tient en sentinelle. Plutôt que toi, il s'éveille en ta demeure. Il comprend toujours mieux que toi-même tes rêves et tes secrets. Il voit ce que tu croises et qui ont mal, même si tu gardes les yeux fermés. Il pardonne à ta place ce que tu juges. Il tremble quand tu fais le fier. Il veut quand tu crois que rien ne vaut la peine. Il entend le cri qui t'étrangle dans ta solitude. Si tu connais son nom, appelle-le. Et si tu ne le connais pas, appelle-le plus fort encore.
Le chrétien vit avec des points d'interrogation. Il se pose sans cesse des questions. Il doit remettre en cause sa lecture du monde, sa lecture de la Bible. C'est salutaire. Et en conclusion, je vous dirais que le chrétien vit au-delà d'un point. Un point à jamais laissé par la croix dans le sol de notre terre. Un point qui achève une période ancienne, comme une phrase s'achève. Un point qui nous permet de débuter une nouvelle phrase, une nouvelle phase, une évolution ou même une révolution. Car après le passage de Jésus de Nazareth, plus rien n'est comme avant.
La phrase d'éternité à laquelle chacun, librement, peut apporter sa part d'amour, d'espérance et de foi, parole devenue vivante pour l'humanité tout entière, se tisse et se construit pierre après pierre. C'est le point de fin de nuit qui marque la fin de la nuit des temps. C'est enfin le point du jour qui voit le jour poindre, le jour d'éternité qui s'offre à nous tout neuf, dans sa fraîcheur et sa paix de matin de Pâques.
Et pour terminer cette émission, je voudrais vous lire un petit texte que j'aime bien, parce que tout à l'heure on parlait qu'on aimait bien trouver un coupable et que c'est toujours l'autre. C'est une sorte de petite fable qui s'appelle « Tout le monde, quelqu'un, chacun et personne ». Il était une fois quatre individus qu'on appelait « Tout le monde, quelqu'un, chacun et personne ». Il y avait un important travail à faire, et on a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité, personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha, car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire, et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. La moralité, sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place, car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement on ne trouve personne. Cette émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matin à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.